Nous poursuivons nos lectures dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, pour relire aujourd'hui une histoire que vous connaissez bien, qui est celle du bon samaritain, dans Luc 10, les versets 25 à 37. Un spécialiste des Écritures intervient alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demande « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Comment le comprends-tu ?» Il répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le spécialiste des Écritures voulait se justifier. Il demanda donc à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait cette route. Quand il vit le blessé, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit, il vit le blessé, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il fut bouleversé. Il s'en approcha davantage, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le spécialiste des Écritures répondit « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors, « Va et toi aussi, fais de même. » Voilà, au cœur de cette conversation entre un spécialiste de la loi et Jésus, c'est-à-dire entre 2 spécialistes de la loi, que résonne une question un peu intemporelle. Il y en a comme ça quelques-unes qu'il ne faut pas manquer, puisque justement elles sont intemporelles et qu'elles s'adressent à nous à tout moment, dès que cette question est reposée, il faut peut-être à nouveau frais apporter notre réponse dans l'instant. Qui dois-je considérer comme important, voire proche de moi ? C'est ce qu'essaie de demander ce spécialiste de la loi. Cette question intemporelle, dans sa permanence, son insistance, son entêtement, interroge notre capacité à discerner les frontières entre ceux qui nous sont familiers et ceux qui, par leur étrangeté, semblent éloignés de nos préoccupations. Elle renvoie à la question poignante, d'ailleurs, de Caïn face à son frère Abel. Vous vous souvenez de « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il y a plusieurs manières d'interpréter cette phrase, mais on sait que Caïn n'avait pas répondu à cette question parce que c'était trop tard pour être le gardien d'un frère qu'il venait déjà de tuer. C'était fait. Mais cette phrase résonnait plutôt comme un défi. Est-ce que je sais, moi ? Est-ce vraiment mon problème ? On balayait la question, la bonne question, intemporelle, elle aussi, d'un revers de main. Ce n'est pas ce que fait le spécialiste de la loi, évidemment, mais Jésus aurait pu lui répondre d'une manière générale à question intemporelle, réponse intemporelle. Vous avez un grand principe, et puis vous le balancez comme ça, d'une certaine manière, puisque de toute façon, ce genre de questions ne reçoivent jamais que la même réponse, autant recycler l'ancienne. Au lieu de répondre par une théorie ou une définition abstraite, Jésus raconte une histoire. Et ce n'est pas tout à fait une fable dont on ne retient au fond que la morale qui vient en fin de fable, comme dans Le Corbeau et le Renard. Nous qui connaissons la fable, on attend avec impatience le tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est ça, c'est avec ça qu'il faut repartir, avec cette réponse intemporelle-là, une question, elle aussi, éternelle ou intemporelle. que le fromage soit au menu ou au régime alimentaire du corbeau ou du renard, on n'a pas besoin d'y croire, et on n'a pas besoin non plus de croire, pour exploiter cette fable, que ces deux animaux parlaient le français du XVIIe, même si ça n'est pas le pire. Mais est-ce qu'il se passe quelque chose de cet ordre avec cette parabole ? Pas certain. Parce qu'elle réécrit d'une certaine manière la situation dans laquelle il envisage lui-même de se trouver. Elle l'anticipe un peu. Un jour, tu te trouveras dans cette situation. Tu t'es peut-être déjà trouvé dans cette situation. Tu t'y retrouveras encore. C'est beaucoup plus proche de lui qu'une fable flottante chargée, et c'est déjà pas mal, de nous offrir une vérité intemporelle. C'est plus que ça. C'est une parabole, on le sait, qui transforme un peu nos repères moraux, nous interroge, souvent de manière inconfortable. Elle interroge nos préventions, notre mode de classement, notre manière de ranger par ordre d'estime croissant ou décroissant les gens que nous croisons, etc. C'est tout cela que ça remet en question, parce qu'il y a une urgence à traiter, atome crochu ou pas. Et puis, elle interroge aussi nos pratiques religieuses. Vous l'avez remarqué, en réécoutant cette histoire, les religieux ne sont pas à leur avantage, les pauvres. Dans cette histoire, l'homme qui pose la question se retrouve pendant un temps, pas à la fin, mais au moment où Jésus le prend au sérieux sa question, il se voit un peu mis en difficulté. Le rôle du héros, du sauveur, échoit non pas à un prêtre respecté, ni à un fonctionnaire religieux, hein, les Lévites étaient ceux qui assuraient le service dans le temple, et pas non plus à un spécialiste de la loi. S'il avait été un peu malicieux, il aurait rajouté un troisième personnage qui s'intercalait entre le Lévite et puis le bon samaritain, mais apparemment il n'a pas osé, c'est dommage, on aurait ri un peu. Comme si Jésus cherchait à provoquer quelque chose par ces exemples. Et c'est le cas. Le rôle du héros n'arrive pas par le prêtre, il n'arrive pas non plus par le fonctionnaire religieux, par le lévite, mais il tombe comme ça sur un samaritain étranger détesté par les judéens. Comme si Jésus voulait signifier que ce n'est pas d'en haut qu'arrive la bonté, hélas, comme si ceux d'en haut qui incarnent normalement la bonté puisqu'ils l'enseignent, la professent, cette bonté-là ne vient pas d'eux ou pas nécessairement. Elle vient souvent de ceux du bas, c'est-à-dire ceux qu'on a classés dans le bas du classement par ordre décroissant d'estime, comme ce samaritain. Ce qu'on enlise dans nos traditions, nos façons de faire et dont on exclut et la personne, et les interventions, et le génie peut-être, parce qu'il y en a un ici, chez ce samaritain, en les classant parmi les réprouvés. La compassion a bien fait une belle apparition dans cette histoire, mais elle n'est pas venue d'en haut, ça c'est sûr. Elle n'est pas venue d'à côté, parce qu'ils sont passés à côté, ils ont peut-être même enjambé un peu le quasi-cadavre hein, pour faire ce qu'ils avaient à faire. Elle est venue de loin, et c'est ça qui est curieux, parce que vous connaissez le proverbe, après les fables, hein, un petit proverbe, ça fait du bien, « loin des yeux, loin du cœur ». Notre compassion possible est réelle une fois qu'on est en situation, et peut-être directement proportionnelle à la distance qui nous amène devant quelqu'un à aider. S'il est proche, qu'est-ce que vous voulez ? On lui tombe dessus, on ne peut plus faire autrement. S'il est sorti de notre périmètre, que même avec une longue vue ou une paire de jumelles, on aperçoit tout juste sa silhouette, écoutez, sommes-nous obligés ? Hein, on revient à la question de Cain. Hein. Est-ce que je suis le gardien de celui-là ou celle-là, là-bas ? Je ne sais même pas qui c'est. Et en plus, c'est tellement loin que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Directement proportionnel à la distance qui nous éloigne de ces personnes. Et là, ce qui est curieux, c'est que ça ne vient pas d'en haut, et qui passe pourtant juste à côté, ça ne vient pas d'à côté, de ces co-religionnaires et de gens du même peuple, ça vient de loin, c'est-à-dire que c'est le plus lointain qui sait ce que c'est qu'un proche. Le prêtre et le lévite passent près du blessé sans s'arrêter. Leur attitude est celle du mépris consistant, bien habité, assumé, sûr de son bon droit. Vous avez ici le dogme, l'habitude qui l'emporte sur la miséricorde. C'est fort quand même, les obligations. Jésus ne les condamne pas après, par cette histoire, au nom de leur identité religieuse. Ils partagent la même. Mais il les critique pour leur indifférence. Ils ne sauvent pas la vie, ils se contentent de préserver les règles. C'est un choix, un vrai choix. S'il y a deux définitions possibles et opposées à ce que peut être ou ce que devrait être une religion, ce sont bien ces deux-là. Bon, rassurez-vous, il y a tout un tas de possibilités entre les deux. On n'est pas obligé de basculer dans la rigole de gauche ou la rigole de droite comme au bowling. Mais il y a de nombreux exemples de ça. Le Samaritain, de son côté, lui, suspect aux yeux de tous, il part mal, hein, au départ. Il a un a priori, il a un déficit d'image, comme on dit aujourd'hui. Il ne se contente pas d'être suspect aux yeux des autres, ou il s'en fiche plutôt. Il s'engage, il soigne, il transporte, il paie et il héberge. Un service d'entraide à lui tout seul. Ses gestes articule, empoigne la compassion pour en faire quelque chose, comme s'il avait le dessin, le patron de cet objet, et qu'avec sa colle, sa couture, avec ses outils, il fabrique quelque chose dont cette personne-là avait besoin ce jour-là. Ça lui donne presque un protocole complet. En tout cas, il est compétent. On mesure la compétence au fait de se débrouiller en situation de manière pertinente. Il a mobilisé ce qu'il fallait et il fait ce qu'il faut. À ce moment-là, il est compétent. Il révèle qu'on ne devient pas prochain par appartenance, ça ne joue pas ici, mais par action. Être proche, c'est une compétence. Est-ce que c'était un héros improbable ? Évidemment, Jésus l'a choisi exprès pour revendiquer une vérité dérangeante. L'identité religieuse, ethnique, etc., ce sont des choses que nous portons avec nous, et qui nous fabrique, qui nous donne un certain aspect, une certaine manière d'être. C'est très bien. Mais il faut savoir les dépasser et aller au-delà. Parce qu'elles nous enferment en nous-mêmes. Elles ne nous poussent pas à faire ce geste qui vont en direction de l'autre. Celui qui pose la question, qui est un homme respecté, lui, pas suspect. C'est un spécialiste de la loi. Cet homme-là va se trouver pendant un temps en porte-à-faux. Le récit le met en scène comme un spectateur impuissant, d'abord, futur acteur ou acteur potentiel. On attend le déclenchement chez lui. Mais dans un premier temps, il est incapable de répondre quand viendra le moment d'agir. Il ne sait pas, c'est pour ça qu'il pose la dernière question, peut-être avant de se décider. Il est un peu dépeint dans son inertie, il nous ressemble. Jésus lève le voile sur une autre lecture. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on sait, ce n'est même pas ce qu'on croit. Parce que tous étaient croyants là-dedans. Ils allaient tous au temple pour y faire leur devoir. Et le dernier qui enfin s'arrête pour aller apporter ses sacrifices. Il était en pèlerinage, cet ami. Ce n'est pas ce qu'on sait, ce n'est pas ce qu'on croit. C'est ce qu'on est, ni ce qu'on est d'ailleurs d'un point de vue culturel ou social ou les modes de classement qui servent à nous situer quelque part dans toutes sortes d'échelles. Mais c'est ce qu'on fait quand il s'agit de sauver une vie mise en danger. C'est ça qui nous fait être ce que Dieu attend de nous. La parabole prend place dans un monde qui est marqué par l'hostilité entre les Judéens, les Samaritains, les Galiléens. Ces gens sont issus du même peuple, mais vous savez ce que c'est ? Un État-nation, un empire, une région doit fédérer des tribus, des hordes. Et c'est parfois avec quelque chose de très contraignant qu'on arrive à les faire vivre ensemble. Et pour ces trois-là, ça fait 800 ans qu'ils n'ont plus du tout envie de vivre ensemble. Ça fait une bonne couche bien épaisse d'inimitié, de préjugés, bien solides, qui n'aboutissent qu'à du rejet. Jésus lui-même, d'ailleurs, y a pris part. Vous savez qu'il a été rejeté à l'entrée d'un village samaritain. Donc il prend cette inimitié en pleine figure. Heureusement, on l'a relu il y a quelques semaines, il n'a pas la même réaction que les disciples qui attendent le feu du ciel qui s'abattent sur les visiteurs indésirables, ou plutôt sur les hôtes. en défaut d'accueil. La tension ancestrale entre ces groupes a tué, et elle continue à le faire aujourd'hui avec d'autres hordes et d'autres tribus. Elle a tué à peu près toute empathie. C'est cela qui les a paralysés. Ils avaient un gros bagage, ils auraient pu nous en parler des heures, et c'est ce qui les a empêchés de bouger. Rappeler ce contexte, c'est pas simplement reconstituer une géographie des haines, parce que nous connaissons la leur, puisqu'elle nous est racontée sur des centaines de pages, nous connaissons les nôtres aussi, qui sont une réactualisation des mêmes choses, mais c'est mettre en valeur la radicalité du geste du Samaritain qui envoie balader tout ça pour faire la seule chose qui vaille à ce moment-là, dans un monde qui est figé sur des lignes ethniques, religieuses, sociales, etc., etc. La compassion exige de traverser ces lignes, de briser toutes ces barrières, pour une fois au moins parce que c'est le moment. Et seul celui qui vient de loin est capable de savoir qui est son prochain. Seul celui qui vient de loin est capable de se rendre proche de quelqu'un qui est, dans toutes les classifications, très éloigné et qui lui aurait peut-être craché dessus à son passage ou craché sur, derrière ses chaussures, à son passage, s'il avait été valide à les savoir. L'histoire ne souffre pas d'analyse logique uniquement. Il faut aller parfois plus loin. Voilà une route assez mal famée. On se demande ce qu'il venait faire là, d'ailleurs. Hein. Ça devait être connu quand même. Passez plutôt par là. Vous allez vous faire détrousser. C'est pas malin. Ça vous fait 500 mètres de plus. Mais passez donc par là. Route mal famée, voyageur imprudent, l'argent qu'il a sur lui, la solitude. Enfin, on n'aurait recommandé ça à personne. Hein. Tout ressemble à un piège. On se dit qu'il est tombé dans ce piège, ce Samaritain. Que si on lui avait demandé avant, il n'aurait jamais pris cette route, que le blessé aurait peut-être dû être avec d'autres, ailleurs, sur une autre route. C'est précisément là que réside la force de cette histoire. Elle fonctionne un peu comme une mise en abîme. Le Samaritain prend un chemin dangereux. Ça, c'est sûr. Il se met dans la position même où se trouve, juste avant lui, peut-être un quart d'heure avant, le blessé, qui n'était pas blessé à ce moment-là. Il l'a échappé belle, finalement, ce Samaritain. Mais son empathie est tout entière dans ses gestes. Sortir de la sécurité, aller sur ce chemin-là et pas un autre, pour rejoindre un autre qui était déjà en danger juste avant moi. Il ne se serait pas croisé s'il avait été attaché à sa seule sécurité. Le plus remarquable, c'est qu'il ne s'agit pas de suivre une recette ici. Il ne lit pas une loi ou un règlement, le Samaritain. Il laisse parler son cœur dans l'urgence. Il ne calcule pas, il donne tout. Il devient donc le modèle même de ce qu'on attend d'un vrai prochain. Un être qui n'hésite pas à risquer, quitte à se perdre, pour préserver la vie d'un autre. Aujourd'hui, cette parabole résonne fortement encore. Nous vivons dans un monde de frontières, visibles, invisibles. Les communautés, les hordes, les tribus existent toujours. Les empires aussi, les empires déçus qui cherchent à retrouver une partie au moins de leur puissance perdue, etc. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, finalement. Mais la transformation qui est attendue de nous à l'issue de cette histoire passe par un geste humain, par une décision qui privilégie l'humain sur la structure, le besoin sur la règle et la vie sur la conformation. Ça, c'est ce qu'ont fait tous ceux qui ont enjambé un demi-mort. La vie d'une seule personne justifie qu'on risque nos biens pour elle. Pas facile. Cette phrase récitée comme un credo donne pourtant sens au geste du Samaritain. Elle dérange beaucoup de choses chez nous. Nos logiques de rationalité, nous aussi, nous aurions branché un GPS, nous aurions téléphoné à 3 amis pour savoir s'il fallait passer par là ou pas, etc., etc. Notre logique de confort, de conformité aussi, tout ça est balayé dans cette histoire. Parce que les religions, les traditions, les institutions ne sont pas des fins en soi, elles sont des moyens utiles pour soutenir quelque chose de plus grand qu'elles, la dignité, la vie, le sauvetage. Et quand elles perdent cette finalité, elles deviennent creuses, dangereuses, elles peuvent même parfois être complices de la cruauté ordinaire. Le prêtre et le lévite représentent bien cette religion vidée de son sens. Ils ont encore les gestes automatiques. On peut imaginer ce prêtre, ce lévite, faire ce qu'il faut une fois arrivé sur place. Les symboles, la structure, etc. Ils possèdent tout ça, ils ne le perdent pas. Mais ils n'ont plus l'essentiel, la spontanéité d'un amour en acte. C'est ça qui leur manque. C'est terrible. Ils passent à côté de l'homme en détresse et montrent que le rituel ne vaut rien si le cœur reste fermé. Jésus utilise ce schéma pour bousculer les habitudes de ses disciples, c'est à eux qu'il parle. Il a une conversation avec ce spécialiste de la loi, mais ils ne doivent pas être loin et ils sont là pour écouter et apprendre. Ce sont des disciples. Il leur dit « Tout commence par vous. Vos rancunes, vos préjugés, dont on a eu un brillant exemple avec le feu du ciel il n'y a pas très longtemps, vos refus de considérer l'autre comme digne de votre aide, vous êtes pétris de tout ça, de tout cet héritage, ces haines héritées dont vous ne connaissez même plus l'origine. Vous savez, comme dans ces familles où on s'entretue depuis des siècles, et quand on demande à l'un ou à l'autre qui a commencé, c'est forcément l'autre, et puis à quel moment ça commence, on ne sait plus, etc. Des vendettas sur des siècles et des siècles se perdent un petit peu dans le brouillard. Ils en sont là, pétris de toutes ces détestations entre vous, pétri de peur, pétri de barrière, il est temps de vous réveiller. » Quand il raconte cette parabole à ses disciples, il s'adresse aussi à ceux qui se croient en ordre, c'est-à-dire à nous, puisque nous sommes loin, finalement, pas obligés de se sentir concernés par une fable ni par une parabole. On peut la lire extérieurement et n'utiliser que la troisième personne du singulier ou du pluriel. Pas obligés de se sentir concernés. Il nous met en situation d'interrogation. La réponse est simple, assez brutale finalement. Le prochain, c'est celui vers qui je tends la main, peu importe l'étiquette qu'il porte. Et ce ne sera pas facile, et parfois même, ça vous mettra sur des chemins où il vaut mieux, d'ordinaire, ne pas mettre les pieds. Les frontières ne sont pas à nier. Elles nous structurent, nous protègent, nous définissent. Elles jouent un rôle légitime d'ailleurs. On peut à bon droit, préférer son système de santé ou son système social à celui du voisin. Heureusement qu'elle est là encore, la frontière, qu'on ne soit pas tous alignés sur le moins-disant de certains. La parabole nous montre que la vraie religion ne craint pas la pédagogie des limites, qu'elle s'y intéresse et qu'elle nous invite même à les traverser de temps en temps, sans pour autant les renverser. Elle sait dépasser ses limites quand l'urgence humaine le commande. Le Samaritain en devient un peu la figure de proue. Il franchit la frontière, lui. La frontière qui l'amenait de Samarie jusqu'en Judée, chez des gens qui ne l'aiment pas. Franchir la frontière de sa sécurité pour aller sur une route où on se fait détrousser tous les 10 minutes, peut-être. Il en a franchi des frontières. Et il est devenu ce qu'il n'aurait jamais dû être, quelqu'un qui risque beaucoup pour aider une seule personne, parce que c'est le moment. L'histoire du bon samaritain n'est pas une simple illustration, une fable, un conte édifiant avec une morale à la fin. C'est plutôt une convocation. C'est en cela que c'est une question permanente qui reçoit une réponse permanente. Le permanent nous suit dans le temps, il ne nous lâche pas. Il nous agrippe tout le temps. À chaque instant de notre vie, il faut être prêt à répondre pour soi « va et fais de même ». Eh bien, je vais et je vais essayer de faire de même, c'est-à-dire « va comme le samaritain vers l'autre en danger, l'étrange, l'inattendu, le mal placé, l'imprudent, même désagréable d'ailleurs, parce qu'on peut imaginer un samaritain qui s'approche d'un blessé qui refuse d'être aidé par quelqu'un qui est habillé comme ça, qui a cette tête-là, etc. Ça peut arriver, hein. Fais de même, va et fais de même, pas en suivant une règle, mais en incarnant une attention à l'autre. En définitive, le principe du prochain n'est pas une appartenance, c'est quelque chose qui se saisit quand c'est le bon moment, c'est une action, on peut la planifier, l'imaginer, se motiver pour être prêt, et puis passer à côté de toutes sortes d'occasions, mais par moment, quand nous sommes dans ce geste, alors nous sommes dans la position du samaritain. C'est dans ce geste et dans cette présence vraie, pertinente, que la vraie religion prend corps et sens. En réalité, puisque Jésus termine son histoire comme ça, de religion, il n'y en a pas d'autre. Pas aussi vraie, en tout cas, que celle-là. Que cette parabole, donc, nous entraîne nous-mêmes hors de nos certitudes, de nos zones de sûreté, peut-être, de nos cartes tracées. Et en faisant cela, elle révèle qu'il y a toujours quelque chose de singulier à aller sauver, menacé d'écrasement. La singularité d'une vie sauvée par un geste de pure empathie, parce qu'on était prêt pour ça. Il n'y a pas d'autre religion que celle-là. C'est comme ça que cette histoire redonne à la foi la force qu'elle doit avoir. Elle ne se contente plus de rituels ou de mots ou d'habitudes accumulées au long des siècles. Elle s'incarne dans un don, un risque, pour sauver un inconnu. Qui est prêt ? Amen.